VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonjour. Le président Barack Obama a reçu aujourd'hui à la Maison-Blanche son homologue nigérian, Muhammadu Buhari. Au centre de ses entretiens, la menace posée par les militants islamistes de Boko Haram au Nigeria et dans les pays de la région tels que le Tchad, Niger et Cameroun. Monsieur Obama a qualifié le Nigeria de l'un des pays les plus importants au monde. Il a ajouté que les récentes élections et la passation pacifique de pouvoir confirment l'engagement du Nigeria envers la démocratie. Il s'est dit très préoccupé par les attaques de Boko Haram et convaincu que le président Buhari a un programme clair pour vaincre les militants islamistes, mais aussi pour combattre la corruption qui mine le Nigeria et sape sa prospérité économique. Le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré a commencé lundi à Dakar, où il a été amené de force au tribunal spécial chargé de le juger. Nicolas Pinault.
Vêtu de blanc et coiffé d'un turban, Hissène Habré, 72 ans, qui refusait de comparaître, a été amené de force et porté dans le box des acculés au palais de justice de Dakar par des agents de l'administration pénitentiaire. Chapelet de prière à la main, il a levé le poing et crié « Allahu Akbar ». Le procès qui s'ouvre ce lundi se tient devant les chambres africaines extraordinaires, tribunal spécial créé par l'Union africaine. L'accusé qui ne reconnaît pas cette juridiction ni dans sa légalité ni dans sa légitimité, selon ses avocats, leur avait donné instruction de ne pas assister non plus aux audiences. Le procès a pu démarrer après l'évacuation de partisans de l'accusé qui ont hurlé des slogans hostiles à la cour. Le président du tribunal, le Burkinabé Gberdao Gustave Kam, a constaté que la défense n'était pas représentée avant de poursuivre la séance en présence d'environ un millier de personnes. Hissène Habré en détention depuis 2 ans au Sénégal, où il avait trouvé refuge après avoir été renversé en 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Hissène Habré est poursuivi pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de torture. La répression féroce sous son régime entre 1982 et 1990 a fait 40 000 morts, selon les organisations de défense des droits de l'homme.
Reprise demain mardi du procès des officiers proches de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, ouvert le 9 juin dernier. Ce procès avait été suspendu 2 jours plus tard. 9 officiers pro-Gbagbo comparaissent pour leur rôle présumé dans des exactions durant la crise post-électorale de 2010-2011. Crise au Burundi, l'ONG MSF lance un cri d'alarme. Elle avertit que le camp de déplacés de Nyarugusu en Tanzanie est submergé par les réfugiés venus du Burundi. Il est urgent de transférer une partie des nouveaux venus à un nouveau site, fait valoir MSF. On écoute son coordinateur des urgences, Olivier Antonin, qui revient du camp.
Le constat sur place, c'est que ce grand camp abritait seulement 64 000 Congolais, donc les Banyamulenge qui avaient fui le Congo il y a une vingtaine d'années, en 1997. Et que le Haut Commissariat des réfugiés s'apprêtait d'ailleurs à les aider à rentrer, à retourner au Congo, au printemps dernier. Et il se trouve qu'avec les événements qui se sont passés au Burundi et qui ont déclenché une fuite de certaines personnes, ce camp est passé de 65 000 personnes à 145 000 aujourd'hui. Donc ça s'est fait de manière assez progressive, mais l'adaptation des partenaires, des différents partenaires dans le camp pour subvenir aux besoins des gens, que ce soit l'eau, la nourriture, les abris ou la santé, il y a du mal à suivre la demande, si je puis dire.
MSF lance un appel pour que les réfugiés puissent être déplacés vers un autre site.
C'est une question éminemment politique. La Tanzanie officiellement dit qu'elle veut chercher un autre site. C'est vrai que pour l'instant, ça ne s'est pas concrétisé. Les propositions faites ne correspondaient pas à l'implantation d'un site pour des raisons où c'était du rocher, ou enfin, donc il y a des raisons techniques. Après nous, pour creuser des latrines ou apporter de l'eau, il faut tenir compte de ces éléments-là. Mais la Tanzanie entre aussi dans une phase d'élection pour renouveler tout le Parlement et donc le gouvernement. Et ce qui fait que la gestion de 150 000 réfugiés à la frontière devient un problème éminemment politique en interne. C'est-à-dire que la région de Kigoma, qui est responsable de ça, et forcément, ils ne savent pas trop par quel bout le prendre, disons, pour pas que ça ait une influence sur la façon dont les gens vont voter dans cette région. La question, c'était par rapport au second site. Oui, il y a une demande. Oui, pour l'instant, il y a une réponse qui va dans ce sens de la part des autorités. Donc il y a une volonté quand même de créer un deuxième site. Et aussi parce que l'actualité fait qu'on voit bien qu'on va aller vers les 200 000 personnes. Le flux de réfugiés ne s'arrête pas.
C'était Olivier Antonin, coordinateur des urgences pour Médecins sans frontières. Le virus Ebola ne fait plus la une des journaux, mais l'épidémie en Afrique de l'Ouest continue de faire des victimes aujourd'hui, rappelle également Médecins sans frontières. Les taux d'infection sont en effet en baisse par rapport au pic de la crise l'an dernier. Des progrès ont été réalisés. Cependant, environ 30 personnes encore sont infectées chaque semaine en Sierra Leone et en Guinée, un nombre qui serait considéré comme une catastrophe majeure dans des circonstances normales. Et l'épidémie a récemment réapparu au Libéria, souligne MSF dans un communiqué. Propagation du virus H5N1. Il faut intervenir dans les plus brefs délais, alerte la FAO, faute de quoi les foyers de grippe aviaire hautement virulente vont se répandre davantage à travers l'Afrique de l'Ouest. La FAO réclame 20 millions de dollars pour financer des opérations d'intervention et de prévention. Un appel lancé après l'apparition de foyers du virus H5N1 dans les élevages de volailles, les marchés et les exploitations familiales au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger, en Côte d'Ivoire et au Ghana.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Les États-Unis et Cuba ont officiellement rétabli tôt ce matin leurs relations diplomatiques après plus de 5 décennies d'hostilité. Jacques Aristide.
De la guerre froide au réchauffement diplomatique, l'instant était historique. À 0h01 tapante, ce lundi 20 juillet 2015, les bâtiments abritant les services diplomatiques des deux pays, à La Havane et à Washington, ont recouvré automatiquement le statut d'ambassade. Image du jour, le drapeau cubain aux couleurs rouge, blanc et bleu a été ajouté aux étendards d'autres pays à l'entrée du bâtiment du département d'État dans la capitale américaine. Toujours à Washington, une cérémonie a eu lieu dans la toute nouvelle ambassade de Cuba en présence du ministre des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parilla, la première visite d'un chef de la diplomatie cubaine depuis 1959. Un tête-à-tête était ensuite prévu avec son homologue américain John Kerry. Après 54 ans, c'est donc une nouvelle étape concrète qui est franchie suite au rapprochement entamé en décembre par les présidents Barack Obama et Raúl Castro. Mais la normalisation des relations n'est pas sans critique. Le sénateur républicain Marco Rubio, lui-même d'origine cubaine et candidat à la présidentielle américaine, a déclaré qu'il mettrait fin aux relations diplomatiques avec ce qu'il appelle la tyrannie communiste anti-américaine jusqu'à une vraie ouverture démocratique à Cuba s'il était élu l'an prochain.
Les banques grecques ont rouvert ce lundi matin après 3 semaines de fermeture instaurées pour protéger le système bancaire des retraits massifs. Des mesures de contrôle des capitaux sont toujours en vigueur, ainsi que de nouvelles taxes imposées par les créanciers d'Athènes. La limite quotidienne de retrait reste fixée à 60 euros, mais le gouvernement accordera une nouvelle limite hebdomadaire de 420 euros dès dimanche prochain. Un attentat suicide a frappé lundi la ville turque de Suruç, près de la frontière syrienne. Elle a fait au moins 30 morts et des dizaines de blessés, signale l'AFP, qui évoque des sources officielles turques. L'attaque, attribuée au groupe État islamique, s'est produite dans le jardin d'un centre culturel. Le secrétaire américain à la Défense, Ashton Carter, est en Israël, la première étape de sa tournée dans les pays alliés des États-Unis au Moyen-Orient, afin de les informer au sujet de l'accord nucléaire avec l'Iran, ainsi que de la lutte contre le groupe État islamique. Et dans le sud du Yémen, les forces pro-gouvernementales ont dit ce lundi avoir étendu leur contrôle de Tawaï dans le centre d'Aden.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.